Bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin à la présentation Nani Tetalani. Il est midi à Washington, 16h à Ikot Ekpene et Damaturu au Nigeria. Reprise du procès pour corruption de Benjamin Netanyahu. Le premier ministre israélien est notamment accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, des charges qu'il nie fermement. Selon la procureure principale, Layat Ben-Ari, M. Netanyahu a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré, entre autres, pour demander à obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël, tout cela pour faire avancer ses affaires personnelles, notamment quand il voulait se faire réélire. Selon le témoin, il était notamment demandé au site Walla de publier des articles contre les principaux rivaux de M. Netanyahu, dont Naftali Bennett. Dans l'immédiat, le procès de M. Netanyahu ne menace pas ses ambitions d'être reconduit dans ses fonctions. Il n'aurait qu'à démissionner en cas de condamnation définitive. Cependant, l'épuisement de tous les recours pourrait prendre des années. En Russie, le président Vladimir Poutine, 68 ans, a signé aujourd'hui une loi qui lui permet de se présenter pour deux nouveaux mandats présidentiels, ce qui lui ouvre la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. Cette loi, publiée sur le portail officiel russe, avait été définitivement adoptée par le Parlement en mars, dans la foulée d'un référendum constitutionnel organisé à l'été 2020. Au Kosovo, une cinquantaine d'étudiants se sont réunis aujourd'hui devant l'université de Pristina pour demander le limogeage d'un professeur et député de l'opposition, Ardian Kastrati, après qu'il a diffusé des remarques sexistes sur son compte Facebook, jugées dénigrantes envers la présidente du Kosovo, Vjosa Osmani. Monsieur Kastrati n'a pas directement mentionné sur Facebook le nom de Madame Osmani, élue présidente du Kosovo dimanche, mais il a toutefois publié un extrait d'un article décrivant une haute responsable de l'époque de la domination ottomane. Monsieur Kastrati, 38 ans, a déjà enlevé l'article après les réactions négatives qu'il a provoquées. Il a aussi précisé ne pas avoir pris pour cible Madame Osmani, mais les étudiants et d'autres personnes n'ont pas trouvé le démenti convaincant. La ministre de la Justice a de son côté dénoncé des propos bas qui devraient être fermement condamnés. Plus de 110 morts et des dizaines de disparus ont été enregistrés en Indonésie et au Timor oriental après des inondations et des glissements de terrain provoqués par le cyclone tropical Seroja qui a frappé ces régions ce lundi. Des parties de certains villages ont été balayées. Le cyclone, qui prend de l'ampleur alors qu'il se déplace vers la côte ouest de l'Australie, entrave les efforts pour atteindre les survivants et pour retrouver aussi d'autres. L'agence chargée de catastrophes a estimé que 125 millions d'Indonésiens, près de la moitié de la population du pays, vivent dans des zones à risque de glissement de terrain. Ce genre de catastrophes sont souvent causées par la déforestation, selon les écologistes. En France, la production de vaccins contre le COVID-19 doit démarrer mercredi chez un sous-traitant français, Delpharm, selon le ministère français de l'Économie et des Finances. Le ministère a rappelé que le sous-traitant Delpharm fait partie des entreprises soutenues ces derniers mois par l'État via l'appel à manifestation d'intérêt annoncé à la mi-juin 2020 et elle va, grâce à ce soutien, pouvoir mettre en flacon pour l'alliance Pfizer-BioNTech. En Afrique, un intermédiaire crucial dans la libération de quatre otages en octobre au Mali a déclaré sur une chaîne française que les autorités maliennes avaient versé 2 millions d'euros aux djihadistes pour l'un de ses prisonniers, en l'occurrence l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Dans cet entretien diffusé ce lundi par Radio France Internationale, le Touareg Amada Ag Bibi, lui-même ancien membre d'un groupe armé djihadiste, mais aussi député à plusieurs reprises, dit que les autorités maliennes n'ont pas payé de rançon pour les trois autres otages, à savoir la Française Sophie Petronin et deux Italiens. Il n'est pas clair si les parties non maliennes avaient de leur côté versé de l'argent. En Algérie, un projet de loi qui prévoit de déchoir des Algériens de la diaspora de leur nationalité pour des actes préjudiciables aux intérêts de l'État a été retiré en raison de son interprétation erronée. En sport, une version féminine de la Ligue des champions d'Asie verra le jour en 2023, a annoncé aujourd'hui la Confédération asiatique de football. Il existe déjà une Coupe d'Asie féminine dans laquelle les équipes nationales s'affrontent tous les quatre ans. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre point sur l'actualité.
Déco sur VO Afrique avec Nanit Talani. Au Mali, les producteurs de coton percevront pour la campagne 2021-2022 un prix d'achat bord champ de 280 francs CFA par kilo. Ce prix enregistre une hausse de 80% par rapport à celui annoncé lors de la session précédente. Par ailleurs, le gouvernement de Bamako maintient la subvention du prix des engrais à 11 500 francs CFA pour le sac de 50 kilos. Le coton contribue à 15% au PIB du Mali et représente jusqu'à 45% de ses recettes d'exportation. La société sénégalaise Elton Group veut investir environ 70 milliards de francs CFA pour une structure capable de fournir de nombreux services gaziers au port autonome de Dakar. Une fois la construction achevée, ce port sera le premier en Afrique à accueillir des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Avec une capacité de stockage de 140 000 mètres cubes, l'infrastructure alimentera aussi les pays voisins, renforcera la chaîne de valeur du gaz domestique et générera des emplois. Terminons par les pays producteurs de pétrole de l'OPEP qui ont décidé hier d'alléger progressivement leur coupe de production d'or noir à compter du mois de mai face à une reprise soutenue par les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et les politiques de relance dans les économies clés. Les pays concernés augmenteront collectivement leur niveau actuel de production de 350 000 barils par jour de mai en juin et de 450 000 barils par jour en juillet.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive.